Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Mes deux invités cette semaine ont un point en commun, l'empathie vécue à travers une expérience. Alors, mon premier invité est François Grisé, qui a vécu dans la peau d'une personne âgée en vivant à peu près un mois dans une résidence pour aînés alors qu'il a tout juste la jeune cinquantaine. François vient nous parler de cette expérience-là qui est quasi anthropologique. Quant à ma deuxième invitée, Josée Vient d'Humano Conseil, elle nous parle d'un habit qui simule le vieillissement et grâce à cet habit-là, elle est en mesure de conseiller ses clients sur comment réussir à développer une expérience qui est basée sur la réalité des personnes âgées. Plus tard à l'émission, je vous parle aussi de Mamie Rock, une DJ octogénaire qui a parcouru la planète pendant 6 ans et vous allez voir qu'à 80 ans, on peut vraiment faire spinner la musique un peu partout à travers la planète. Également, c'est bientôt la Saint-Jean-Baptiste, une fête qui est appréciée des francophones hors Québec et qui est devenue pour les Québécois la fête nationale. Donc, c'est un bon moment pour parler de nos origines. Parlant de nos origines, il y a un auteur-compositeur qui me tient à cœur pour une chanson qui est vraiment très poétique et qui est loin de celui qu'on entend régulièrement justement dans les spectacles de la fête nationale. Et je vous parle de Paul Piché. On l'associe souvent à « Heureux d'un printemps » et un peu toutes ces gigues-là de la fête nationale, mais cette chanson-là, « L'escalier », c'est un exemple concret de ce qu'est la sagesse intergénérationnelle, de ce qu'on apprend au fil du temps. Alors, on écoute « L'escalier » de Paul Piché.
Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison, je remontais, parce que sans raison, j'allais devant, j'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait, c'était apparent dedans. Je me sentais seul comme une rivière abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il y a pas longtemps, j'étais petit, me voilà jeune et plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon, la bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans ma maison sur un bel air d'accordéon. Les enfants, c'est pas vraiment, vraiment méchant. Ça peut mal faire de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant des sentiments, de ce qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer, qu'à l'autre chanson je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais, c'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices, le pouvoir soulage leur tourment. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. Mais c'est une manière de se faire aimer quand ce qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boudés, ils ont pas mordu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu quand j'ai compris que je suis revenu. regardés, ont pas mordu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Quand j'ai compris que je faisais un très très grand détour pour aboutir seul dans un escalier. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé.
À l'automne dernier, je suis allée dans un tout-inclus. Non, non, pas à Cuba, à Montréal, plutôt au théâtre La Licorne. Ah, oh, je m'ennuie du théâtre! Tout inclus, c'est une pièce de théâtre documentaire qui a été écrite par François Grisé, que je reçois à l'instant. François est auteur, comédien, directeur général et artistique de 1 et 1 font 1000, et il a fait une incursion dans les résidences pour aînés. Bonjour François!
Bonjour Chantal!
François, on a à peu près le même âge, pourtant il y a déjà 6 ans, vous avez décidé d'aller vivre dans une résidence pour aînés pendant un mois. Mm-hmm. C'était quoi le but? Comment cette idée-là est née dans votre esprit?
Bien, à ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais ce que je tentais d'identifier ou de nommer en faisant le séjour d'immersion que j'ai fait à la résidence des Jardins du patrimoine de Val-d'Or, c'est que j'avais besoin de vivre ce que vivent les personnes qui vivent dans une résidence privée pour aînés, pour mettre le doigt sur la nature de mon malaise devant ce choix-là que mes parents avaient fait. Et moi, j'avais accompagné mes parents dans ce choix-là, bien sûr, mais c'est seulement un an après qu'ils aient décidé de déménager là que j'ai fait ce séjour-là. Mais c'est seulement après qu'ils aient déménagé là que j'ai fait « Oh mon Dieu! » Qu'est-ce qui est arrivé? Quel est ce choix qu'on a fait ensemble d'aller vivre dans une résidence privée pour aînés? Qu'est-ce que ça dit de nous? Puis, ultimement, maintenant, après toutes ces années, qu'est-ce que ça dit de notre société d'avoir fait ce choix-là? Et puis, je suis encore convaincu que d'aller faire cette immersion-là, pour moi, c'était vraiment la seule façon de le comprendre, en tout cas, d'un point de vue que peu de gens avaient expérimenté avant, là.
Ben justement, on va parler un peu tout à l'heure des différentes avenues qui s'offrent à nous parce que c'est le début mm-hmm. d'une aventure pour vous avec cette pièce-là. Mais ouais. pour cette incursion-là, je dirais une aventure quasi anthropologique, qu'est-ce qui vous mm-hmm. a le plus marqué?
Ce qui m'a le plus marqué, en tout cas ce qui m'a fait un choc dès le départ, c'est de constater combien l'environnement était, moi, ce que j'appelle monoculturel, c'est-à-dire, on le sait qu'il y a juste des vieux dans une maison de personnes âgées. Moi, je les appelle les vieux parce que je considère d'avoir mon... J'ai le droit de les appeler les vieux parce que c'est... parce que j'ai vécu avec. Mais de constater que, oui, il y avait juste des vieux dans cette maison-là, que quand je regardais autour de moi, il n'y avait plus de diversité comme dans la société, mais il y avait juste des gens d'à peu près le même âge, en tout cas au moins 75 ans et plus, jusqu'à beaucoup plus. Puis l'autre affaire qui m'a frappé, en tout cas dès le départ, c'est qu'il n'y avait rien à faire. C'est un lieu où tout à coup, on se fait vendre ça comme une vacance un peu éternelle, ou en tout cas une vacance jusqu'à la fin de nos jours, tu sais. Donc ça m'a beaucoup frappé ou choqué dès le départ. Puis par la suite, ce qui m'a frappé, c'est le besoin de parler des gens et l'envie des personnes qui vivent, qui sont rendues dans la partie du vieillissement, qui vivent les réalités du vieillissement, de me parler de leur parcours de vie, mais de me parler de ce qu'ils vivent dans la résidence, mais de ce qu'ils vivent devant les réalités du vieillissement. La mort prochaine, la défaillance du corps, mais aussi les nouvelles amours, les rencontres qu'ils ont faites, les pertes qu'ils ont vécues. Donc, autant dans le positif que dans le négatif, je vous dirais que ce qui me marque encore et ce qui me motive à continuer, parce que la pièce que vous avez vue à la Licorne, c'était le début, ben c'est les rencontres que j'ai faites et c'est les voix des aînés qu'on entend peu Même si on en parle beaucoup, les voix des aînés sont peu entendues. Souvent, on ne leur demande pas vraiment leur avis, mais certainement, ils ont beaucoup de choses à dire et ils ont beaucoup d'idées et de vécu pour nous parler de ce qui pourrait être la suite là, devant les réalités du vieillissement.
C'est un peu l'objectif de cette émission-là, de donner voix au chapitre, aux aînés. Mais j'ai envie, tu dis, bon, tu vois, je t'ai tutoyé. Donc, je vais continuer comme ça, avec cette proximité-là. On s'est déjà parlé dans le passé. J'ai moi-même vu ta pièce qui m'a troublée et fait rire aussi, entre autres, par la présence de Marie-Ginette Gay. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Marie-Ginette, c'est l'adorable comédienne qui joue la mère de François Morancy dans « Conversation avec mes parents » à Radio-Canada. Ouais. Et elle a une expression dans cette pièce-là. Est-ce que tu sais à quoi je réfère, François?
Ah, mon Dieu, non, je dois t'avouer que non.
Quand elle dit « l'âge d'or », c'est une expression de marde.
Ah oui. Ben, tu sais, c'est parce qu'on s'enfarge un peu dans les fleurs du tapis, hein, autour de comment on appelle les gens qui ont 65 ans et plus. Parce que d'abord, quand on a 65 ans et plus, on n'est pas nécessairement vieux aujourd'hui. C'est le début de la partie de la vie où on a le compte des âges est plus élevé. C'est vrai que c'est nouveau que 65 ans, ce soit jeune dans la réalité des humains. Donc, l'âge d'or, ça faisait référence techniquement à le moment où on peut apprécier la vie. Hein. C'est un concept qui fait beaucoup référence à la retraite, à ne rien faire. Mais moi, ce dont je me rends compte, je pense que ce que j'essaie de dire en disant que c'est une expression de marde, c'est que ça rend pas compte de la diversité des expériences. Puis c'est pour ça que moi, dernièrement, j'ai décidé d'essayer, moi je dis souvent les vieux, là, parce que comme je dis, c'est, je trouve que ça dit ce que c'est, mais j'aime bien parler de la réalité des personnes vieillissantes, parce que ça nous inclut tous, hein, on est tous, peu importe l'âge qu'on a, des personnes qui sont en train de vieillir, de croître, puis ça nous amène à une partie qui est la fin de la vie, qui est très longue maintenant. Donc moi, je trouve que quand on parle de l'âge d'or, c'est comme si on disait, il fallait absolument que ce soit quelque chose de le fun. Alors que la réalité des aînés, c'est vrai, ils ont de la sagesse, ils sont des aînés, ils sont des vieux, mais ils sont aussi des bénévoles, des participants à la société, des aidants naturels, des gens qui prennent soin de leurs petits-enfants, de leurs enfants. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup encore à dire et à faire dans la société, à un autre rythme peut-être, avec des moyens qui sont différents, qui sont moins performants ou qui sont moins visés vers la performance. Mais certainement, moi, je commence à avoir une sensation et un regard sur le fait qu'ils ont encore beaucoup à contribuer. Puis les images sur lesquelles on s'accroche ou sur lesquelles on est dans le déni, bien, c'est ceux qui vivent des vieillesses très difficiles. Perte cognitive, grande maladie, grande perte physique. Mais c'est sûr que ces gens-là nous font peur parce qu'ils représentent des aspects du vieillissement qui sont épeurants, mais qui font partie de la vie puis qui font certainement pas partie de l'âge d'or. Ça, c'est sûr.
Bien, tu dis qu'à la résidence où tu étais, ce qui t'a frappé, c'est le fait qu'on n'a rien à faire. Puis en même temps, on nous a souvent dit que la retraite, c'était le moment d'apprécier la vie. Donc, je pense que ce que tu constates, c'est cette envie-là de contribuer, justement. Il y a pourtant des résidences où c'est agréable de vivre, là. C'est pas tous les parents, de toute façon, qui voudraient aller vivre chez leurs enfants.
Moi, je dis que c'est la grande majorité des gens qui voudraient pas aller vivre chez leurs enfants et vice-versa. À moins d'avoir un ensemble architectural, une maison qui est organisée pour que ça puisse se faire pour qu'on reste dans des familles qui sont nucléaires. Hein. Ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on vit de façon nucléaire, c'est-à-dire qu'on forme, même en solo, on forme une petite famille, puis c'est tout. Puis bien sûr, les résidences sont pour la plupart d'entre eux des milieux de vie qui sont très propices. Sauf que, tu sais, dans l'expérience, moi, de mes parents, ce qui est arrivé, c'est que on s'est embarqué, eux et moi, dans un choix où on n'avait pas réfléchi. On avait un peu gobé le plan de marketing de cette affaire-là qui nous dit « Vous allez être bien, vous ne serez plus tout seul, vous n'aurez plus rien à faire, ça va être super le fun. Mais on n'avait pas pris le temps de s'éduquer, de réfléchir sur le fait que même si ce sont de très bons et de très beaux milieux de vie très souvent, c'est quand même un grand passage et c'est quand même une grande cassure dans une vie. Hein. On parle de l'expression « casser maison ».
Oui.
Bien, qu'on s'en aille dans un milieu agréable ou pas, c'est quand même un très grand pas à faire. Et qu'on le veuille ou non, souvent, on n'y pense pas à ça. On se dit « Ah, ça va être facile. Ah, ça va se faire tout seul. » On nous le vend comme ça un peu. Mais il y a un accompagnement nécessaire. Et je crois qu'il y a une éducation et une prise de conscience devant le fait que, peu importe les contextes favorables ou même défavorables, il faut penser à notre affaire un peu, il faut s'éduquer. Puis il ne faut pas être tout seul devant le choix de comment on veut habiter notre vie quand on veut être vieux.
Habiter notre vie, habiter notre vieillesse. J'ai lu ça sur la page Facebook de ta compagnie théâtrale, mm-hmm. 1 et 1 font 1000. Et dernièrement, tu as interpellé les gens en leur demandant « Qu'est-ce qui vous donne espoir pour l'avenir des personnes vieillissantes au Québec? » Et j'étais mm-hmm. curieuse de voir qu'est-ce qui en est ressorti.
Bien, il y a des gens qui sont assez pessimistes, qui disaient « Bien, rien ». Bon, là, je trouve que ça, c'est un peu de voir la vie en noir et blanc. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est l'action citoyenne. La responsabilisation à un niveau personnel, mais à un niveau aussi de petites cellules dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre communauté. Ce qui ressort aussi, c'est de pas justement gober la pilule du modèle préfabriqué, prémonté pour nous, mais de se demander qu'est-ce qu'on veut, nous? Qu'est-ce qui est à inventer? Qu'est-ce qui est à imaginer qu'on n'a pas imaginé encore? Et je pense que tu sais, la crise sanitaire qu'on vit actuellement va faire réfléchir beaucoup de gens en rapport avec le modèle et les choix qu'on peut faire pour nous. Si je te dirais que c'est ça qui résume l'espoir que les gens ont, c'est qu'on en parle, qu'on y réfléchisse, qu'on y pense, qu'on imagine, puis qu'on se déresponsabilise plus. C'est-à-dire que souvent, on se dit « Ah, ben ils vont prendre soin d'eux autres. Ah, ben le gouvernement va s'en occuper. » Mais, et c'est vrai, je pense que toutes les infrastructures et toutes les infrastructures et tous les systèmes doivent répondre. Mais il y a avant toute chose une réponse personnelle et citoyenne qui peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et je ne parle pas juste des gens qui ne sont pas encore très âgés, mais dans une relation qui va dans les deux sens. Moi, j'aide mes parents, mais mes parents m'aident à leur façon et vice-versa. Moi, j'aide mon voisin qui est âgé, mais mon voisin âgé peut m'aider.
Absolument. Donc, c'est l'intergénérationnel.
Oui, oui.
Et avant de te demander de nous présenter ta chanson, j'ai envie que tu nous parles brièvement du prochain chapitre, parce que tout inclus, justement, c'était le premier chapitre et je t'entends dans l'idée de se réinventer, de considérer d'autres avenues. Donc, de quoi cette nouvelle pièce-là ou la continuité va-t-elle parler?
Bien, là, il y a 4 chapitres auxquels tu as assisté à l'automne dernier. Donc là, il y a déjà 2 chapitres qui sont écrits, qui tracent très sommairement l'histoire des personnes âgées, le milieu ou le système économique dont ça fait partie, et ensuite aussi comment justement on met en marché ces produits-là de consommation, de location. Et puis les 2 derniers chapitres qui restent à écrire tournent autour de comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça, comment ça se fait qu'on a peur de ça, qu'on est dans le déni de ces réalités-là, comment on peut en sortir. Et ensuite, bon là, va se pointer à l'intérieur de la pièce, bien sûr, maintenant la crise sanitaire actuelle, qui, selon moi, devient l'occasion, dans l'histoire que je veux raconter, de vraiment, justement, se demander, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, mais qu'est-ce que je veux? C'est quoi les autres options? Est-ce que la maison, les résidences privées pour aînés, c'est quelque chose qui me convient puis qui est très bien pour moi? Ou est-ce que moi, je veux autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres modèles qu'on a inventé, imaginé dans d'autres pays, dans d'autres cultures qui pourraient me correspondre mieux? Et comment est-ce que je peux, avec ma famille, avec les gens qui m'entourent, faire ce choix-là? Et je reviens toujours là-dessus. Là, tu sais, pour moi, la dernière partie de la pièce qui donne de l'espoir, c'est qu'à un niveau personnel, citoyen, à un niveau systémique, syndical, gouvernemental, tout le monde puisse se mettre ensemble pour inventer des nouvelles structures et faire en sorte que le plus possible, hein, parce qu'il n'y a jamais de situation parfaite,
oui.
mais de faire en sorte que chacun puisse avoir voix au chapitre puis prendre une décision plus éclairée aussi.
C'est parfait. Eh bien, nous, on sera là justement pour se faire le porte-parole de tous ces beaux échos-là. On voudra te recevoir à nouveau pour la suite de la pièce. Et,
ça va me faire plaisir.
Moi, personnellement, c'est une avenue qui m'interpelle énormément. Et si tu connais déjà des gens, ceux qui nous écoutent aussi, qui vivent dans des maisons intergénérationnelles, on aimerait beaucoup vous recevoir. C'est un appel officiel okay. au témoignage. Et,
parfait.
François, en terminant, j'ai envie que tu nous présentes la chanson que tu as choisie. Elle est a priori surprenante, mais ton explication est adorable.
La chanson que j'ai choisie, c'est la chanson « Jean du pays » de Gilles Vigneault. Puis je l'ai choisie parce qu'il nous est apparu dans le cours d'écriture. C'est mon metteur en scène, Alexandre Sectot, qui a vu que dans le texte, je faisais référence à la chanson parce qu'on célébrait l'anniversaire d'une des résidentes au Jardin du patrimoine et on lui chantait « Jean du pays
oui. ».
Et en écoutant la pièce et en lisant particulièrement le texte, les paroles de la chanson, je me suis rendu compte que on chante souvent le couplet, hein, bonne fête, c'est mm-hmm. à ton tour de te laisser parler d'amour, etc. Mais on s'attarde rarement au. J'ai dit le contraire. On chante souvent le refrain, mais on s'attarde rarement au couplet. Et pour moi, l'invitation que je fais aux gens aujourd'hui en écoutant la chanson, c'est de bien écouter les couplets parce que les couplets parlent de l'essentiel à toutes les étapes de la vie, qui est les liens qu'on tisse. Les vœux d'amour, et je ne parle pas d'amour nécessairement amoureux, mais les vœux d'amour envers nos parents, nos amis, notre société, les gens qui nous entourent, parce qu'au final, ben, à la fin des jours, c'est ça qui reste. Et ça, on n'a jamais de regret d'avoir dit aux gens autour de nous qu'on les aimait, peu importe notre âge. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'avais envie de faire entendre ben, à toi d'abord, puis à tous ceux qui nous écoutent, la chanson « Jean du pays » de Gilles Vigneault.
François, tu me fais un très beau velours parce que dans ma famille, mon père chante toujours justement le couplet et c'est un rituel qu'on a mis en place de chanter les vœux de bonne fête, mais de laisser justement de se laisser parler d'amour et de justement le temps qui reste au bout de nos jours, le temps de se le dire. Et mon père, exact. À chaque chanson, prend le temps de le chanter, de nous le dire, et c'est un moment vraiment important pour nous. Alors, je nous souhaite une excellente écoute. Merci beaucoup, François. À très bientôt.
Merci à toi, Chantal.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler.
Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court,
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler
Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser
Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre leurs espoirs.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Jean du pays, c'est votre tour
c'était Jean Dupéy du grand Gilles Vigneault. Restez avec nous pour la deuxième demi-heure d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Ici Chantal Doré au micro avec vous et après la pause, je reçois Josée Vien, présidente et cofondatrice d'Humano Conseil, qui nous parle du réflexe aîné. Parlant de réflexe, j'espère que vous prendrez l'habitude de venir ajouter votre grain de sel sur la page Facebook de l'émission, qui est en fait la page Facebook de Canal M. Vous savez que vous pouvez toujours écouter nos émissions en rediffusion sur canalm.vuesetvoix.com. Et tiens, je vous propose peut-être un autre réflexe à acquérir, qui est celui de télécharger nos émissions, de les mettre en format balado-diffusion et de nous emmener marcher comme ça avec vous. En même temps, c'est un excellent autre réflexe santé. Alors, je vous donne rendez-vous après la pause. Ma prochaine invitée est Josée Vien d'Humano Conseil. Josée Vien a un riche bagage d'études et d'expériences, autant en gérontologie, en gestion du changement, en service à la clientèle et en communication. Forte de tous ses beaux talents et en compagnie de partenaires, Josée a développé l'approche réflexe aîné. Cette approche-là aide ses clients à ajuster leur service à la clientèle pour les personnes âgées. Je la reçois tout de suite après J'aime ta grand-mère des trois accords.
J'aime ta grand-mère. Je veux un amour qui se passe de commentaires. Je veux refaire le tour en passant par un arrière. Je veux qu'aujourd'hui soit encore plus parfait. J'aime ta grand-mère. J'aime ta grand-mère. Je veux que ma première soit sa dernière. J'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. Je dirai j'aime ta grand-mère. Je voudrais que ta mère soit notre bouquetière. Je dirai j'aime ta grand-mère.
Aujourd'hui, au fil du temps, on reçoit José Vien, présidente et cofondatrice d'Humano Conseil, et son réflexe aîné est une démarche extraordinaire pour explorer le vieillissement, la pluralité du vieillissement sous toutes ses formes. Alors, on rencontre José. Bonjour José.
Oui, bonjour Chantal.
Alors, qu'est-ce que ce réflexe aîné et comment ça a émergé toute cette belle aventure-là?
En fait, Humano est une entreprise que j'ai cofondée il y a plus de 12 ans déjà et on accompagne justement les organisations à développer leur réflexe aîné. Donc, de mieux comprendre les défis auxquels on peut être amené vivre en vieillissant, puis voir comment on peut mieux accompagner, mieux servir la population vieillissante. Puis, autant dans les milieux de vie, les institutions financières, les villes, les municipalités, pharmacies, donc c'est très, très varié comme auditoire, comme marché là, qu'on accompagne.
On m'a dit que c'était justement votre grand-père qui vous avait inspiré tout ça, grand-papa Léon.
Absolument, mon grand-papa Léon. En fait, je suis native de la Gaspésie et en allant visiter mon grand-père, on en profitait toujours pour aller faire la tournée des commissions, épicerie, pharmacie, chez le barbier. Puis c'est vraiment lors de ces rencontres-là, lors des sorties avec grand-papa Léon, que j'ai constaté à quel point vieillir demandait de s'adapter. Donc, de retour chez moi à Québec, il y a 12-13 ans environ, là, j'ai vraiment eu un flash à 4 heures du matin. Mon grand-père a besoin de s'adapter par rapport à son vieillissement, mais je pense que les organisations également ont besoin de s'adapter aux besoins des aînés. Donc, de là est partie cette aventure entrepreneuriale-là qui perdure et qui nous passionne toujours tout autant.
Et on m'a dit que vous aviez conçu, non pas une machine à reculer dans le temps, mais à avancer dans le temps, qui simule le vieillissement. Pouvez-vous me parler de ça?
En fait, oui. On voulait développer davantage l'empathie chez les gens qui côtoient les aînés. Pour la plupart, n'ont pas 75, 85 ans, bien qu'on vieille tous là à un rythme différent, mais on voulait tenter de comprendre les défis auxquels on peut être confronté. Donc, on a développé avec différents professionnels de la santé un habit qui simule justement ce vieillissement-là par rapport à la perte musculaire, au niveau de la flexibilité, que ça diminue. Donc, c'est un outil qu'on utilise dans le cadre de nos formations pour bien comprendre les défis auxquels on peut être confronté. Et ça marche à tout coup parce que justement, on prend conscience à quel point notre rythme est important, à quel point au niveau de nos communications, lorsqu'on entend moins bien, ben on gagne à adapter nos stratégies lorsqu'on parle à une personne qui aurait des problèmes auditifs, par exemple.
Là, vous dites, c'est un habit. C'est quelque chose qu'on met sur soi?
Absolument, oui. C'est un habit qu'on enfile avec des poids pour simuler justement la perte musculaire. On met des attelles aussi pour diminuer la perte au niveau de la flexibilité. Donc, on ressent un certain effet de lourdeur. Et là, on va également avoir, on adapte en fait nos formations là pour que ce soit disponible en e-learning, donc formation en ligne. Et on va tenter également de c'est sûr qu'il n'y aura pas l'effet du poids, mais tu sais, au niveau visuel, au niveau auditif, de se plonger dans la peau d'une personne aînée pour voir comment on peut développer des meilleurs réflexes. C'est vraiment la base de notre approche.
Donc, on peut dire dans un cas comme ça que l'habit fait le moine.
On pourrait, oui.
Dites-moi, Josée, je sais que vous avez aussi participé au Forum des générations en avril 2019. C'est, je crois, un forum là, qui pose des questions sur tous les liens intergénérationnels.
En fait, oui, le forum qu'on a animé, c'était dans le cadre de la région de Québec, pardon. C'était en novembre dernier. Et dans la salle, là, étaient réunis quelques centaines de personnes, autant des étudiants secondaire 4, secondaire 5, que des personnes aînées de tous âges, de 65, 75, 80 ans. Puis on les amenait vraiment à discuter. Notre objectif, c'était vraiment de faire ressortir les ressemblances, les similitudes qu'on a à travers les âges. Pas de venir créer des fossés entre les générations, mais plutôt d'aborder des sujets auxquels ben on parle de nos rêves, par exemple, de nos grandes fiertés. Fait que ça a vraiment apporté de belles discussions, cet avant-midi-là là, que nous avions co-animé.
J'aimerais vous entendre sur l'âgisme positif. De quoi parle-t-on?
En fait, l'âgisme, hein, c'est un processus sur lequel on va discriminer une personne ou on va avoir des préjugés par rapport à une personne en fonction de son âge. Donc, ça peut être des préjugés qui sont négatifs, comme par exemple, la personne, elle est lente, elle comprend rien. Tu sais, des fois, on entend ils sont oui. malades, les gens sont vulnérables. Donc, ça, c'est de l'âgisme négatif, mais il y a aussi la tendance, une tangente où c'est vraiment de l'âgisme positif, à faire des généralités. Par exemple, les aînés sont des sages, sont tous d'excellents mentors. Oui, il y en a qui sont d'excellents mentors, mais il ne faut pas généraliser. C'est le même principe, là. Puis de l'âgisme, en fait, c'est en fonction de l'âge. Donc, on peut avoir des préjugés en fonction des jeunes ou en fonction des aînés, là.
Puis le fait de se retrouver justement entre générations, c'est le moment de casser ces préjugés-là et finalement être soi-même parce que on est une personne au fil du temps à travers toute notre vie.
Absolument, absolument. Puis tu sais, c'est souvent dans le regard des autres hein, qu'on va prendre notre coup de vieux. Des fois, j'entends les gens dire ça. C'est pas par rapport à notre âge biologique ou à l'âge qu'on va ressentir, l'âge qu'on ressent. C'est vraiment par rapport dans le regard des autres que des fois, ben on va se sentir vieux, pardon. Donc, c'est, oui. C'est important d'aborder toutes ces nuances-là.
Qu'est-ce qui vous épate le plus, Josée, de votre travail auprès des personnes âgées? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux organismes là, pour qui vous livrez vos précieux conseils?
Bien, en fait, hein, moi, je rêve d'une société davantage inclusive. Donc, j'aimerais que les gens aînés partout où qu'ils aillent, qu'ils soient bien accueillis, que ce soit dans leur institution financière, que ce soit à leur épicerie, qu'ils sentent qu'ils ont leur place. Donc, c'est vraiment, je pense, pour nous, ce qu'on a choisi, c'est de développer les compétences des gens qui côtoient les aînés. On souhaite que ça ait bien, un objectif fort positif là, sur la qualité de vie et le mieux-être là, des personnes aînées au Québec et partout ailleurs aussi, bien sûr.
Bien, on vous accompagne dans cette mission, Josée. Et en terminant, vous avez choisi une belle chanson sur la résilience. Pouvez-vous nous la présenter?
Oui, en fait, j'ai choisi la chanson « Lily » de Vincent Vallière. C'est une chanson qui est écrite pour sa fille, puis je trouve que c'est rempli de bons mots, des bons mots de bienveillance.
Bien, on l'écoute maintenant sur « Au fil du temps » à Canal M. Merci beaucoup, Josée.
Je vous remercie, Chantal.
Je vois bien que tu vis des heures folles. T'es là perdu sans boussole. Je suis bien inquiet pour toi. Tu sais, Lily, quand la vie te trahit, qu'une histoire te brosse et que ton cœur se casse, c'est correct de pleurer. toujours en banque. Quelques jours de chance et un peu d'espérance. C'est juste une passe, il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble. C'est vrai, Lily, tout finit par s'user. Nos habits, nos maisons, nos amours, la gloire des premiers jours. C'est vrai aussi, Lily, qu'il y a des coups qu'on voit pas venir, qui nous font douter de l'avenir, qui nous donnent juste envie de fuir. Chance et un peu d'espérance. C'est juste une passe, il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble.
C'était Lily de Vincent Vallière.
Kissy, kissy.
Non, ce n'est pas au menu du spectacle de la Saint-Jean-Baptiste, mais c'est en fait une pièce qui a été mixée par une femme extraordinaire, Mammy Rock, qui est en fait Root Flowers, qui est probablement la DJ la plus âgée au monde. En fait, je pense que oui, parce qu'elle est dans le livre des records Guinness. Alors, comment tout ça a commencé? Évidemment, c'est une étincelle intergénérationnelle qui a fait jaillir tout ça. Ruth célébrait l'anniversaire de son petit-fils. Son petit-fils a choisi de célébrer dans une discothèque à Londres et lui a dit « Hey, grand-maman, est-ce que ça te tente de te joindre à nous? » Et Ruth a dit « Why not? » Alors, Ruth est à la discothèque et vraiment, elle est emballée. Elle voit le mix entre la musique, entre les jets de lumière et tout à coup, voit naître une nouvelle passion. Elle se dit « Et pourquoi pas? Pourquoi je ne me mettrais pas à mixer? » Elle en parle à son petit-fils, qui est un petit peu dubitatif. Il se dit « Ben là, c'est pas un petit peu tard, vous commencez à mixer à 80 ans? » Mais Ruth, elle se dit « Why not? » Alors, elle rencontre sur son chemin par hasard, mais est-ce que le hasard existe vraiment? Un jeune producteur français du nom de Aurel Simon, qui lui aussi se dit « Why not? » Après tout, c'est un Français, donc il a sûrement dit ça comme ça. Et Aurel se dit, pourquoi pas, nous allons faire une star avec Root Flowers. Alors, Root a fait ses premiers pas comme DJ à 80 ans. Et pendant les 6 années qui ont suivi, elle a fait le tour du monde aux tables tournantes. C'est vraiment là, elle a été dans les plus grandes discothèques, elle a fait les ouvertures, les premières parties de certains groupes et on l'a même reçue au Festival de Cannes. Alors, je trouvais que c'était une expérience extraordinaire de se dire, j'ai 80 ans, moi je commence quelque chose de nouveau et qui sait où ça peut nous mener. Donc, cet exploit-là, j'ai retenu une phrase là, de Mamie Rock, elle dit « Just be yourself ». Mamie Rock, elle est décédée malheureusement en 2014 et à ses pieds, elle avait sa valise et son passeport qui était dans sa poche. Elle était prête pour de nouvelles aventures. Alors, merci Mamie Rock pour toute cette belle énergie que vous avez insufflée un peu partout à travers la planète. À l'approche de la Saint-Jean-Baptiste ou de la fête nationale, je vais vous parler d'un tout autre sujet, mais en fait, ça parle évidemment de musique, de nos origines, d'où on vient, de comment on fait vibrer à l'unisson. Nos origines. J'ai découvert une vidéo extraordinaire qu'on pourra mettre en lien sur la page de l'émission. Ce sont des gens qui... avouent leur identité. En fait, ils déclinent leur identité. Ils sont vraiment 100% sûrs qu'ils sont de cette culture-là. Et on leur pose la question, y a-t-il une culture avec laquelle vous avez peut-être un petit peu moins d'affinité? Et je prends cet exemple-là d'un jeune Britannique qui dit, moi, je suis 100% Brit et j'ai pas trop d'affinité avec les Allemands. Il fait un test d'ADN et se rend compte qu'une grande partie de son ADN provient d'ancêtres allemands. Alors ça a été toute une surprise et ça nous amène un peu à réaliser que on fait partie de la planète, on est des citoyens de la planète et c'est le thème cette année de la Saint-Jean, tous unis. Ce test-là, moi, ça m'a rendu curieuse. Je ne l'ai pas faite, mais j'ai posé la question s'il y avait des membres dans ma famille qui l'avaient fait. Et il se trouve que mon père l'a fait, ce test d'ADN-là, ainsi que sa conjointe. C'est un test de Ancestry. Et puis, mon père, il est coquin un petit peu. Il a décidé d'envoyer des échantillons de salive, parce que ça se fait avec des échantillons de salive, mais il a donné comme nom Nour Serrar. Parce que sa conjointe est marocaine, donc il a donné comme nom Nour Serrar, puis il a été démasqué par sa salive. Effectivement, on lui a retracé des origines québécoises, mais évidemment européennes. Alors, ça m'amène à dire c'est ça. Il y a la trace en nous de tout ce qu'on porte comme histoire, et j'ai envie de vous présenter une pièce qui illustre à merveille toute cette épopée-là de nos générations à travers l'histoire. C'est Dégénération du groupe Mes Aïeux.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire.
Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident.
Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te
enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser.
Et c'est ainsi que se termine notre deuxième émission d'Au fil du temps. Un gros remerciement à toute l'équipe, dont Louis Garon et Jean-Sébastien Laliberté. Où que vous soyez au Canada, je vous souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste ou une fête nationale. Et la semaine prochaine à Au fil du temps, on reçoit Éric Simard, chercheur en biologie et auteur pour Vivre jeune 4. Et Sonia Lessard, directrice générale de l'Appui Montérégie, qui est un organisme pour les proches aidants d'aînés. Et Dieu sait qu'ils ont besoin beaucoup de répit en ces temps de pandémie. Mais en attendant, on prend le temps de célébrer un peu puis de se mettre de la joie plein le corps et l'esprit avec la Saint-Jean. Bonne Saint-Jean, bonne fête nationale tout le monde, à la semaine prochaine.